Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 11. Les barons voleurs, les rebelles. Deuxième partie. Le gouvernement américain suivait presque à la lettre le comportement de l'État capitaliste décrit par Marx. Prétendument neutre dans les maintiens de l'ordre, il servait, de fait, les intérêts des plus riches, lesquels n'étaient pourtant pas toujours d'accord entre eux et s'opposaient parfois vigoureusement en matière de politique. Le rôle de l'État consistait alors à régler pacifiquement les conflits qui agitaient la classe la plus aisée, à réprimer l'esprit de révolte chez les plus défavorisés et à adopter des politiques susceptibles de garantir la plus grande stabilité possible du système. Les arrangements entre démocrates et républicains pour l'élection de Rutherford Hayes en 1877 avaient donné le ton. Que le vainqueur soit démocrate ou républicain, il ne se produirait pas de grands bouleversements dans la politique nationale. Lorsque le démocrate Grover Cleveland se présenta pour la présidence en 1884, l'opinion générale était qu'il opposerait fermement au pouvoir des monopoles et des grandes entreprises, à l'inverse du parti républicain, dont le candidat était James Blaine, qui soutenait les riches. Pourtant, lorsque Cleveland fut élu, Jay Gould lui télégraphia qu'il avait le sentiment que les intérêts de l'élite des milieux d'affaires seraient, avec lui, entre de bonnes mains. Il ne se trompait pas. L'un des principaux conseillers de Cleveland était William Whitney. Cet avocat d'affaires, millionnaire et lié par mariage à la Standard Oil, fut nommé secrétaire à la marine par Cleveland. Il décida immédiatement de créer une marine indestructible et acheter l'acier de Carnegie à des prix artificiellement élevés. Cleveland lui-même avait tenu à rassurer les industriels en leur annonçant qu'ils n'avaient pas à redouter son élection. « Aucune mesure administrative ne portera tort aux intérêts des milieux d'affaires aussi longtemps que je serai président. Le transfert de l'exécutif d'un parti à un autre ne signifie pas qu'il doive y avoir de sérieux bouleversements dans la situation existante à ce jour. » En 1887, alors que le trésor américain était en excédent, Cleveland opposa son veto à un décret qui prévoyait d'octroyer 100 000 dollars aux fermiers du Texas afin de leur permettre d'acheter des semences en période de sécheresse. Il déclara « En de telles occasions, l'aide fédérale encourage l'attente d'un soutien gouvernemental, paternel, et nuit à la vigueur du caractère national. » Pourtant, la même année, Cleveland utilisa cet excédent en or pour payer 28 dollars au-dessus de leur valeur initiale les obligations détenues par des individus loin d'être dans la misère. Véritable cadeau de 45 millions de dollars.
Camarade bourgeois, camarade fils à papa, la triomphant va de chez toi, le petit chèque en fin de mois, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi. Ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, t'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche, ton petit complet veston et ta chemise blanche, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi. Ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu roules en Ferrari ou en Lamborghini, tu roules des épaules, tu te crois super beau, regarde-toi.
La réforme fondamentale de l'administration Cleveland est révélatrice de la nature du réformisme américain. La loi sur le commerce entre les États de 1887 était censée réglementer l'activité des chemins de fer au profit des consommateurs. Mais Richard Olney, avocat du Boston and Maine Railroad et de quelques autres compagnies ferroviaires, et bientôt ministre de la Justice de Cleveland, prévint les administrateurs des compagnies de chemin de fer qui s'opposaient à cette loi que, dans leur propre intérêt, il ne serait pas sage de supprimer la commission sur le commerce entre les États. Le républicain Benjamin Harrison, qui succéda à Cleveland entre 1889 et 1893, fut décrit en ces termes par Matthew Josephson dans sa pittoresque étude des années qui suivirent la guerre de sécession. Benjamin Harrison avait la particularité unique d'avoir servi les compagnies ferroviaires tant en qualité d'avocat que de soldat. Pendant la grève de 1877, il avait poursuivi les grévistes devant la justice fédérale. Le mandat de Harrison apporta lui aussi son lot de réformes. La loi Sherman, antitrust, votée en 1890, était censée protéger les échanges et le commerce contre les concentrations illégales et interdire la constitution de toute alliance ou coalition destinée à porter atteinte aux échanges entre les États ou au commerce international. Le sénateur John Sherman, rédacteur de la loi, prétendait concilier les diverses critiques anti-monopole. Certes, il y avait aussi autrefois des monopoles, mais jamais de la taille des géants actuels. Vous devez entendre la voix des critiques antitrust, ou vous aurez le socialisme, le communisme, le nihilisme. La société est confrontée de nos jours à des pressions inconnues jusqu'alors. Lorsque Cleveland fut à nouveau élu président en 1892, Andrew Carnegie, alors en Europe, reçut une lettre du directeur général de ses aciéries, Henry Clay Frick. « Je suis parfaitement désolé pour le président Harrison, mais je ne vois pas comment nos intérêts pourraient être affectés en quoi que ce soit par ce changement d'administration. »
Camarade bourgeois, camarade fils à papa, je sais ton père est le patron, faut pas en faire un complexe, le jour de la révolution, on lui coupera que la tête, regarde-toi, regarde-toi. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu passes ton temps au drugstore sur les Champs-Élysées, tu te crois très très fort, t'es jamais qu'un miné, regarde-toi, regarde-toi.
Cleveland dut faire face à l'agitation causée dans tout le pays par la crise et la panique sociale de 1893. Il utilisa l'armée pour réprimer l'armée de Coxey, un rassemblement de chômeurs qui s'était rendu jusqu'à Washington, et briser la grève nationale qui toucha les chemins de fer l'année suivante. Pendant ce temps, la Cour suprême travaillait, malgré son impartialité apparente et drapée dans la robe noire et austère de la justice, au service de l'élite dirigeante. Pouvait-elle du reste être indépendante, elle dont les membres étaient nommés par le président et confirmés par le Sénat? Et à quelle neutralité de classe pouvait-elle prétendre, elle dont les juges étaient pour la plupart d'anciens hommes de loi fortunés, issus des plus hautes sphères de la société? À l'orée du XIXe siècle, la Cour suprême avait jeté les bases législatives du capitalisme d'entreprise en faisant du contrat une notion sacrée et de l'économie régulée au niveau fédéral en instituant un contrôle fédéral sur le commerce entre les États. En 1895, la Cour interpréta la loi Sherman antitrust de manière à la rendre parfaitement inoffensive. Elle décrétait qu'un monopole dans les raffineries de sucre était un monopole s'exerçant dans le domaine de la production et non un monopole commercial. En conséquence, il ne pouvait être question que le Congrès s'en occupe en invoquant la loi Sherman. La Cour déclarait que la loi pourrait en revanche être invoquée pour réprimer les grèves touchant plusieurs États en même temps, comme la grève des chemins de fer de 1894 par exemple, puisqu'il s'agissait là d'une entrave au commerce caractérisé. Elle proclamait également l'inconstitutionnalité d'une timide tentative émanant du Congrès pour augmenter le taux d'imposition des hauts revenus. Quelques années plus tard, la Cour suprême s'opposerait encore au démantèlement des monopoles de la Standard Oil et de l'American Tobacco, sous prétexte que la loi Sherman ne concernait que les alliances déraisonnables portant atteinte au commerce. Très peu de temps après que le 14e amendement destiné à protéger les Noirs eut pris force de loi, la Cour suprême en fit principalement un instrument de protection des entreprises. Pourtant, en 1877, une décision de cette même cour avait approuvé les lois votées par certains États en faveur du contrôle des tarifs imposés aux fermiers pour l'usage des silos à élévateur. La compagnie propriétaire de ces silos prétendait qu'elle était une personne juridique que l'on privait de sa propriété en parfaite violation du 14e amendement qui stipule « Aucun État ne pourra priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété sans garantie légale suffisante ». La Cour suprême rejeta l'argument en s'appuyant sur le fait que si les silos à élévateur étaient des biens privés, ils étaient également investis d'une mission d'intérêt public, autorisant, de fait, leur réglementation. Un an après, l'association du barreau américain, mise en place par des juristes habitués à défendre les intérêts des plus riches, se lança dans une campagne destinée à inverser cette décision. Les responsables de l'association déclarèrent à différentes reprises que, si les trusts sont des armes de protection de la propriété contre le courant communiste, alors il faut les encourager. Ils ajoutaient « le monopole est souvent une nécessité et un atout ».
Papa, rejoins les rangs de la pègre, tu prendras vraiment ton pied. Ne sois plus une petite bête, nous sommes tous des défoncés. Regarde-moi, ah, 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 regarde-moi, ah, ah, regarde-moi, ah, ah, regarde-moi, ah, ah, regarde-moi, ah, ah, regarde-moi.
En 1886, l'objectif était atteint. Certains États avaient voté, sous la pression des fermiers, des lois en faveur de la réglementation des tarifs imposés aux fermiers pour le transport de leur production par le train. En 1886, la Cour suprême décréta que les États n'étaient pas habilités à voter de telles lois. Selon la Cour, il s'agissait là d'une usurpation de fait des prérogatives accordées à l'autorité fédérale. Au cours de cette seule année 1886, la Cour cassa quelque 230 lois votées par les États pour réglementer différentes activités. À cette époque, la Cour suprême avait finalement reconnu l'argument selon lequel les entreprises étaient des personnes et leur argent un bien protégé par certaines clauses du 14e amendement. En principe, cet amendement avait été voté pour garantir les droits des citoyens noirs. Mais sur la totalité des procédures juridiques s'y référant, entre 1890 et 1910, 19 concernaient les droits des Noirs et 288 ceux des entreprises.
If I were a rich man, he idle deedle didle digga digga deedle didle dum. All day long I'd pity pity bum. If I were a wealthy man, hey, wouldn't have to work hard. Hee-yi-yo-deedle-deedle-digga-digga-deedle-deedle-dum. If I were a bitty-bitty-rich digga-digga-deedle-deedle-man.
Les juges de la Cour suprême n'étaient pas seulement des interprètes de la Constitution. Il s'agissait également d'individus issus d'un milieu précis, avec des intérêts spécifiques. L'un d'entre eux, le juge Samuel Miller, avait déclaré en 1875. Il est vain de lutter contre des juges qui ont représenté pendant 40 ans les intérêts des compagnies ferroviaires et de toute forme de coalition capitaliste. En 1893, s'adressant à l'association du barreau de l'État de New York, le juge David Brewer déclarait « C'est une loi constante que la richesse de l'ensemble de la communauté soit entre les mains du petit nombre. La grande majorité des hommes sont incapables de supporter ce sacrifice permanent qui permet seul d'accumuler les richesses. Ainsi, il a toujours été et sera toujours vrai, à moins que la nature humaine ne soit profondément remodelée, que la richesse de la nation reste dans les mains de quelques élus, tandis que la masse des autres subvient à ses besoins par son labeur quotidien. » Nous ne sommes pas ici devant un aspect caractéristique des années 1880-1890. Tout cela remontait au père fondateur qui avait étudié le droit à une époque où régnaient en maître les commentaires de Blackstone, dans lesquels on pouvait lire que le respect de la loi pour la propriété privée est si grand qu'elle n'en supportera pas la moindre violation, et ce, même dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté. À l'époque moderne, le maintien de l'ordre exige davantage que la simple force brutale, davantage même que la loi. Il nécessite qu'une population dangereusement concentrée dans les villes et les usines et à qui la vie offre de nombreux motifs de révolte, accepte cela comme une nécessité. C'est pourquoi l'école, l'église et la littérature populaire présentaient la richesse comme un signe de supériorité et la pauvreté comme la sanction de l'échec individuel. Le pauvre ne pouvait espérer s'en sortir par le haut qu'en pénétrant dans le club restreint des riches par un effort extraordinaire et avec un peu de chance. Dans les années qui suivirent la guerre de sécession, un certain Russell Conwell, diplômé de l'université de droit de Yale, pasteur et auteur de livres à succès, tint la même conférence. Plus de 5000 fois, devant différents auditoires à travers tout le pays, il s'adressa au total à plusieurs millions de personnes. Son message était simple. Tout le monde peut devenir riche s'il travaille assez dur, partout. Si les gens voulaient bien se donner la peine de chercher, se trouvent des acres de diamants. Voici un extrait de cette conférence. J'affirme que vous devriez être riche et qu'il est même de votre devoir de le devenir. Les hommes riches sont sans doute les individus les plus honnêtes de la communauté. Je n'hésite pas à le dire clairement. 98% des hommes riches en Amérique sont des gens honnêtes. Et c'est pour cela qu'ils sont riches.
De qui sont, ils vous demanderont un jour vos gosses. Les souvenirs de ces gens qui allotent à l'fosse. Plus de cheval et plus de terri et plus de corps.
98% des hommes riches en Amérique sont des gens.
Les hommes riches sont sans doute les individus les plus honnêtes de la communauté.
Et c'est pour cela qu'ils sont riches.
C'est pourquoi ils reçoivent l'argent en récompense. C'est également pour cela qu'ils dirigent de grandes entreprises et trouvent un grand nombre de gens qui acceptent de travailler avec eux. C'est parce qu'ils sont honnêtes. Je compatis avec les pauvres qui sont pourtant bien rares à mériter cette compassion. En effet, compatir avec un homme que Dieu a puni pour ses péchés, c'est agir mal. N'oublions jamais qu'il n'est pas un seul pauvre en Amérique, que sa propre incompétence n'est pas maintenue dans la pauvreté.
Que sa propre incompétence n'est pas maintenue dans la
pauvreté. Alphos, nos pères ont souffert.
C'est parce qu'ils sont honnêtes.
Le dur misère. Mérite, car les respecte.
Et c'est pour cela qu'ils sont riches.
Conservons le chevalet et le terri.
Conwell était l'un des fondateurs de la Temple University. Rockefeller participa également au financement de collèges et en particulier à la fondation de l'Université de Chicago. Huntington, du Central Pacific Railroad, subventionna deux universités pour les Noirs, le Hampton Institute et le Tuskegee Institute. Carnegie fit de même pour un certain nombre de collèges et de bibliothèques. La Johns Hopkins University fut fondée par un négociant millionnaire, Cornelius Vanderbilt, Ezra Cornell, James Duke et Leland Stanford, tous millionnaires, donnèrent également leur nom à des universités. Les riches qui consacraient une partie de leur fortune à ce genre de choses passèrent alors pour des philanthropes. Mais ces établissements scolaires n'encourageaient guère l'esprit critique. Ils formaient les serviteurs types du système américain. Les enseignants, les médecins, les juristes, les administrateurs, les ingénieurs, les techniciens, les politiciens, tous ceux qui seraient un jour rémunérés pour veiller au maintien du système, pour en être les loyaux défenseurs contre les troublions. Des hommes d'affaires astucieux et efficaces bâtissaient des empires, se débarrassaient de la concurrence, maintenaient des prix élevés et des salaires bas, et profitaient du soutien financier du gouvernement. Ces industries furent en fait les premiers bénéficiaires de cette sorte d'État-providence. Au tournant du siècle, l'American Telephone and Telegraph avait le monopole du réseau téléphonique national. L'International Harvester détenait 85% des parts de marché dans le secteur du matériel agricole. Dans tous les autres secteurs, les ressources étaient également de plus en plus concentrées et de plus en plus contrôlées. Les banques possédaient des intérêts dans de si nombreux trusts qu'elles purent mettre sur pied un réseau complexe de grands dirigeants d'entreprises qui étaient tous également membres des directoires des autres entreprises. Selon un rapport sénatorial du début du XXe siècle, Morgan, au sommet de sa gloire, siégeait dans 48 conseils d'administration, tandis que Rockefeller se contentait de participer à 37 de ses organes de direction. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.